Éternel, notre Dieu, nous comprenons par le texte que nous venons de lire ce matin que notre péché a nécessité que le Fils glorieux quitte le ciel, s'humilie, vienne sur cette terre et meure à notre place, verse son sang pour expier nos péchés. Mais ce texte nous rappelle aussi non seulement cette humiliation, non seulement ce sacrifice, ce renoncement, mais nous rappelle aussi que le Fils nous a entraînés avec lui, nous a transportés dans ta présence. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, Éternel, c'est un peuple gracié, un peuple saint, un peuple qui est en son Sauveur qui se présente devant toi. C'est en vertu et en vertu seulement des mérites de ton Fils que nous pouvons nous présenter et te rendre un culte. Et nous voulons te bénir ce matin pour un si grand sacrifice, te bénir ce matin pour un si grand salut, te bénir ce matin pour un statut si merveilleux que celui que tu nous as donné d'enfant d'adoption, d'adorateur, de sacrificateur. Éternel, il est dit au début de ce texte, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Eh bien, Éternel, notre Dieu, ce matin, nous te demandons cette grâce. Si le Fils, vrai Dieu, vrai homme, a accepté de s'humilier ainsi et de mourir à la place d'un peuple qui ne le méritait pas, a renoncé à la gloire comme il l'a fait, à combien plus forte raison sommes-nous appelés, nous aussi, à renoncer à nous-mêmes, à faire preuve d'humilité. Nous crions à toi. Tu sais, Père, notre propension à l'orgueil. Tu connais, Père, notre propension à vivre comme si tu n'existais pas. Même si nous sommes tes enfants, si souvent nous nous levons le matin, vaquant à nos occupations, oubliant qui tu es, si rapidement. Eh bien, Père, ce matin, nous te demandons, comme une grâce, de nous aider à tourner nos yeux vers toi, comme une grâce de pouvoir t'écouter, comme une grâce de pouvoir répondre à ta parole, comme une grâce de pouvoir vraiment t'adorer, que les paroles de nos chants, Seigneur, sortent de nos bouches, en réfléchissant, Seigneur, en ayant été réfléchi quant au sens qu'elles expriment, que vraiment, Père, nous puissions te rendre un culte et que réellement nous puissions, Seigneur, à l'image de notre Sauveur, faire preuve de cette même humilité les uns envers les autres. Ô notre Dieu, nous remettons la suite de ce culte devant toi. Nous t'implorons afin que tu le bénisses. Nous t'implorons afin que ton esprit soit agissant au milieu de nous, dans chaque âme, dans chaque cœur, en vertu des besoins qui sont les nôtres, mais avant toute chose, Père, pour que toute gloire te revienne. Bénis aussi les enfants qui sont enseignés dimanche après dimanche. Renouvelle ceux qui les enseignent. Seigneur, bénis cette parole qui leur est annoncée. Oh oui, que ton esprit, chez les plus jeunes et les plus âgés, puisse agir puissamment, que ta parole puisse être révélée et transforme nos vies. Nous t'apportons, ô notre Dieu, toutes celles et tous ceux qui parmi nous souffrent, qu'ils soient présents aujourd'hui ou qu'ils soient absents. Tu connais le lot de souffrances différents, Seigneur, chez les uns et chez les autres, mais si réels parfois. Nous implorons ta grâce, nous implorons ton secours. Oh oui, Éternel, notre Dieu, prends soin de celles et ceux qui sont si éprouvés. Nous apportons devant toi ceux qui sont sur un lit de souffrance, nous pensons à Madame Fanelbrook, nous pensons à Madame Badoil, Seigneur, et peut-être tous ceux que nous oublions encore. Ô Père, accorde-leur la grâce de ta paix, de ta présence, qu'elle leur soit vraiment sensible. Nous apportons aussi devant toi, cela a déjà été fait dans une prière, toute ton Église, nos frères et sœurs de par le monde, Seigneur, qui ont le même Dieu, le même Sauveur, le même Esprit agissant en eux. Bénis-les, secours-les, particulièrement dans cette journée. Nous t'apportons ce monde qui se perd, ce monde qui s'inquiète, ce monde, Seigneur, qui tourne des regards inquiets, mais qui refuse si souvent de tourner ses regards vers toi. Aie pitié de ce monde, ô notre Dieu. Nous t'implorons afin que beaucoup passent des ténèbres à ton admirable lumière. Et nous crions à toi pour les autorités que tu as placées sur notre pays, te demandant que, d'un point de vue communal, cantonal ou fédéral, tu prennes soin de ces hommes et de ces femmes. Seigneur, inspire-les, secours-les dans toutes les décisions à prendre. Et accorde-nous, Seigneur, aussi, de savoir, dans la mesure où ils nous invitent, Éternel, Seigneur, à obéir, et que cela ne transgresse pas tes commandements, à faire preuve de soumission et d'obéissance. Éternel, toutes ces choses, nous te les demandons ce matin au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Voilà, et bien je vous invite maintenant à la lecture du texte de la prédication de ce matin. Ouvrons nos Bibles en Joël, chapitre 2. Sonnez du cor en Sion. Lancez la clameur sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays frémissent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans les générations à venir. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était devant lui comme un jardin d'Éden, et derrière lui c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. On dirait un bruit de chars qui bondissent sur le sommet des montagnes. On dirait le bruit de flammes du feu qui dévore le chaume. On dirait un peuple puissant, rangé en bataille. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils courent comme des héros, ils escaladent une muraille comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, ils ne quittent pas leur route, nul ne bouscule son voisin, chacun suit sa voie. Ils se ruent au travers des projectiles sans rompre les rangs. Ils fondent sur la ville, courent sur la muraille, escaladent les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre frémit, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel donne de la voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable, qui pourra le supporter? Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez du cor en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie. Réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa tente. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage au déshonneur pour qu'il soit la fable des nations. » Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays. Il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a répondu. Il a dit à son peuple, me voici. Je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile. Et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus au déshonneur parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le bannirai vers une terre aride et désolée. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection s'élèvera, sa puanteur s'élèvera, car il a fait de grandes choses. Terre, sois sans crainte, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car c'est l'Éternel qui a fait de grandes choses. Bêtes des champs, soyez sans crainte, car les pâturages du désert reverdissent, car les arbres portent leurs fruits. Le figuier et la vigne donnent leurs richesses. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps, au premier mois. Les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasirez, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël. Moi, l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Voilà la lecture du texte de la prédication de ce matin dans la parole de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. La fois passée, nous avions vu avec le prophète Joël tous les ravages causés par une terrible invasion de sauterelles qui s'était abattue sur le pays de Juda. Invasion qui avait d'ailleurs été suivie par un temps de sécheresse, finissant de détruire le peu de végétation qui restait encore en place. Et nous avions compris que cette invasion et ce temps de sécheresse n'avaient pas échappé à Dieu. Bien au contraire, car comme nous l'avions souligné, notre Dieu, sans pour autant qu'il puisse être accusé d'être l'auteur du péché et de la souffrance, est celui qui gouverne toutes les circonstances, toutes choses, et se sert même des plus terribles pour appeler les hommes à la repentance. Et nous avions tiré trois exhortations de ce texte, que je vous donne rapidement. La première, c'est que nous devons apprendre à lire les circonstances de ce monde, ainsi que celles de nos vies, même les plus défavorables, en y voyant la main de Dieu, en nous souvenant que rien ne lui échappe. Et pour nos vies, en nous souvenant surtout que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. La seconde exhortation, c'est qu'au milieu de la tristesse et de l'abattement général du monde dans lequel nous sommes, eh bien, qu'au milieu de cette tristesse et de cet abattement, eh bien, nous apprenions à tourner nos regards vers Dieu, sachant reconnaître ses bénédictions, sachant voir ses grâces en toutes choses, et vivre dans la joie de notre salut. Et pourtant, combien, aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, en tout cas dans nos pays, on a l'impression que la joie du salut est perdue. Et la troisième exhortation, enfin, c'est que dans un perpétuel souci de réformation personnelle, et parce que nous sommes appelés à persévérer jusqu'au bout, nous sachions pratiquer ce point important de la vie chrétienne qu'est la repentance. Dans le texte de ce matin, nous découvrons Israël placé entre deux jugements. Le premier actuel, sous le poids duquel il est courbé, c'est les dégâts causés par l'invasion des sauterelles, ainsi que la sécheresse. Et l'autre jugement à venir, qui, s'il vient à se réaliser, sera pour le peuple le jour de son extermination complète. C'est le grand jour de l'Éternel. Israël est entre ces deux jugements. Et l'invitation aux jeunes et à la repentance que Joël adresse au peuple dans ce chapitre 2 a pour but non seulement d'obtenir la réparation des destructions causées par les sauterelles, mais surtout de prévenir l'accomplissement du second jugement, la destruction de Juda. Maintenant, il reste à savoir quelle est la nature du jugement que voit arriver Joël. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle invasion de sauterelles, plus considérable encore que celle qui s'est abattue il y a quelque temps, ou bien est-ce qu'il s'agit de l'invasion d'une armée ennemie? Eh bien, il me semble que Joël semble dire aux habitants de Juda que si le fléau des sauterelles ne les a pas conduits à la repentance, comme Joël les y appelait dans les versets 13 et 14 du chapitre 1, alors ils doivent craindre un jugement plus sévère, celui que l'Éternel accomplira par une invasion de sauterelles, mais une invasion de sauterelles d'une nature toute différente, celle d'une armée puissante qui viendra du nord. Et c'est pour rendre cette future invasion plus concrète à l'entendement de ces Judéens que Joël, avec un style poétique, celui qui caractérise son livre, eh bien, utilise des images terribles tirées de l'invasion des sauterelles pour présenter cette future invasion d'une armée ennemie qui va tout détruire sur son passage, elle aussi. Si ce n'est que cette fois-ci, ce ne seront pas des criquets qui vont monter contre Juda, mais des hommes en armes, de terribles commandos qui vont envahir et détruire ce peuple. Le titre de la prédication de ce matin est celui-ci, « Le jour de l'Éternel ». Il y a trois points. Le premier, le châtiment de l'Éternel. Le deuxième, un retour à l'Éternel. Et le troisième, la délivrance de l'Éternel. Le premier, le châtiment de l'Éternel, ce sont les 11 premiers versets de ce chapitre. Joël, dans cette première partie, annonce donc ce qui va se dérouler si Juda ne revient pas à Dieu de ses mauvaises voies. Et remarquez qu'il le fait comme si le jugement était déjà là, aux portes du royaume. Il le fait comme si l'invasion était en cours, comme comme si les gens pouvaient voir au loin les lueurs rouges des incendies, comme si ces habitants de Juda pouvaient entendre le bruit des troupes et des chars, comme s'ils pouvaient déjà avoir dans la bouche le goût de la poussière et du sang, comme s'ils pouvaient déjà sentir l'odeur de ces soldats qui se ruent sur eux pour les massacrer. Et Joël procède ainsi de façon très illustrée, je le répète, reprenant des images de l'invasion des sauterelles qu'ils viennent de connaître, afin de rendre la chose encore plus crédible et encore plus terrible. C'est à une véritable vision d'Apocalypse qu'ils confrontent les habitants de ce pays. Pourquoi ? Eh bien, je le répète, comme la dernière fois, c'est parce que le peuple de Juda a été infidèle aux clauses de l'alliance que Dieu a passée avec lui. Comment ? Par son idolâtrie, parce qu'il a adoré les Baals, et parce qu'il a semblé mépriser l'avertissement lancé par Dieu au moyen de l'invitation de sauterelles, c'est pour ces raisons que le Seigneur va maintenant se retourner contre son peuple et venir au milieu de lui comme un guerrier, comme un juge, d'autant plus sévère que les privilèges qu'il avait accordés à Juda étaient grands. Et c'est ainsi que Joël écrit « Le jour de l'Éternel vient, il est proche ». L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir ? Et en appelant, comme nous le lisons au verset 1, le cor a sonné, et c'était l'instrument que l'on utilisait, vous savez, c'était des cornes de bélier qu'on utilisait comme instrument d'alerte pour prévenir une attaque, eh bien le prophète veut faire comprendre que sa prophétie est un avertissement général, un avertissement qu'il lance à tout Juda. Les plaies que Dieu a prévu d'utiliser ne sont pas loin d'arriver et n'épargneront personne le jour où elles frapperont. Et si Joël procède ainsi, c'est afin que cette crainte de ce jugement excite enfin ce peuple à revenir. Il écrit ceci, « Afin que tous les habitants du pays frémissent et donc reviennent à Dieu ». Et puis tout à coup, pour appuyer son avertissement, il présente les premiers signes du jugement. Et c'est ainsi que de la même façon que l'invasion de sauterelles fut précédée d'un temps de ténèbres, du fait de ces essaims qui emplissaient l'air et qui empêchaient les rayons du soleil de percer, et bien de la même façon, il présente à ce peuple une armée terrible, une armée nombreuse, très certainement les Assyriens, soulevant des tonnes de poussière derrière elle, du fait de son grand nombre, du fait de ces appareils de guerre, du fait des fumées, des fermes incendiées qu'ils ont laissées derrière, ou que cette armée a laissées derrière. Et cette armée va obscurcir le soleil et faire trembler le sol lorsqu'elle arrivera en vue de Jérusalem. On est face à un film catastrophe. Même le meilleur des films hollywoodiens ne peut exprimer de façon aussi claire ce que Joël est en train d'exprimer là. Il écrit ceci, « Jour de ténèbres et d'obscurité ». Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Et au verset 10, là, avant c'était le verset 2, verset 10, « Devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. » Et Joël continue dans les versets 4 et 5. En décrivant maintenant ces hordes de guerriers qui tout à coup se mettront à attaquer en fondant sur le pays. Et par cette description réaliste, les Judéens peuvent imaginer leurs traits, les visages de ces soldats, entendre leur bruit, provoqué par leur course, provoqué par leur cri d'assaut, qui s'amplifie au fur et à mesure de leur avance. Allez voir, on dirait des chevaux, écrit Joël. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Et puis tout à coup, c'est l'entrée dans la ville. Inhumaine, terrible. De la même façon que les criquets escaladaient et couraient sur les murailles, ne quittaient pas leur route, entraient par les fenêtres, détruisant toute nourriture sur leur passage, et bien de la même façon, ces soldats vont fondre sur Jérusalem, je le disais tout à l'heure, tels des commandos de la mort, que rien ne pourra arrêter. Et dans cette description des versets 7 et 8, qui nous parle de ces hordes sauvages il y a quelque chose de terrible. Et cette chose terrible, c'est cette déshumanisation de ces soldats qui avancent inéluctablement, frappant sans réfléchir tout ce qui se trouve devant eux, sans que quoi que ce soit puisse les arrêter. Puisque Joël écrit, ils se ruent au travers des projectiles. On ne découvre chez eux aucun sentiment, aucune pitié. Ils tuent hommes, femmes, enfants, sans réfléchir. Et même si leurs camarades de combat tombent à leur côté, ils continuent leur route comme si de rien n'était. J'ai réfléchi en imaginant ces soldats et cette description si terrifiante, car si vraisemblable, et elle me faisait penser à ces régiments qui, lors des guerres napoléoniennes, avançaient par milliers, sous la mitraille, sous les obus qui tombaient à droite et à gauche, les hommes serrés les uns contre les autres, baïonnettes au canon. Il pouvait y en avoir 1, 10, 100 qui étaient laminés, labourés par les obus et par les tirs des troupes en face. Ils continuaient d'avancer, et ceux qui étaient derrière prenaient la place de ceux qui étaient devant, et ils avançaient inéluctablement jusqu'à leur objectif, ou jusqu'à ce qu'ils soient complètement exterminés. J'ai continué de réfléchir et j'ai pensé encore à un livre que je lisais il y a quelques années en arrière concernant la Deuxième Guerre mondiale et comment les troupes russes ont envahi Berlin. Et dans ce livre qui expliquait comment les Russes donc fondirent sur l'Allemagne nazie, on lit qu'ils étaient descendus par milliers par les troupes allemandes qui, dans un dernier effort ou un dernier sursaut, essayaient de retenir cet envahisseur impitoyable. Mais les milliers de soldats russes mouraient, et il y en avait encore des milliers derrière qui se levaient pour prendre la place de leurs camarades. C'était un flot intarissable d'hommes, en colère, assoiffés de vengeance et de pillage. Voilà le portrait que dresse Joël de ce grand jour de l'Éternel. Comme nous le lisons encore au verset 3, le pays qui sera redevenu, après cette invasion de criquets, de sauterelles, comme un jardin d'Éden avant le passage de cette armée, après son passage, ne sera plus qu'un champ fumant de cendres. Un peu comme après le passage d'Attila, le roi des Huns, que l'on surnommait le fléau de Dieu, derrière qui aucun brin d'herbe ne repoussait. Ainsi donc, chers amis, ce jour de l'Éternel, par avance annoncé, si Judas ne se repent pas, est un jour de jugement, un jour de rétribution, un jour de terrible châtiment par lequel Dieu rendra à son peuple infidèle le prix de sa félonie, de son rejet, de n'avoir pas entendu son appel à la repentance lors de l'envoi des sauterelles, qui était un avertissement, une préfiguration de ce jour de l'Éternel. Et comme le dit par avance Joël, mais qui pourra subsister? Qui pourra supporter ce jugement? Tout sera à feu et à sang. Alors, chers frères et sœurs, si l'invasion de sauterelles était, comme je viens de le dire, une préfiguration du grand jugement de Dieu, eh bien, ce fameux jour de l'Éternel, qui nous est maintenant présenté par le prophète, nous parle par avance de ce jour terrible que sera celui du jugement dernier, au cours duquel notre Seigneur se révélera aux yeux de tous les hommes pour les juger. Et ce jour ne manquera pas d'arriver. Et je dis que ce jour ne manquera pas d'arriver, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes réagissent comme ces Judéens après l'invasion des sauterelles, ne prenant pas garde aux avertissements de Dieu. Dieu leur paraît comme anéanti, comme inexistant, comme silencieux. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'homme s'agite comme s'il était un dieu sur cette terre. Mais ne nous leurrons pas. Car de la même façon que nous voyons tout à coup au verset 1, le cor se mettre subitement à sonner pour annoncer l'attaque des Assyriens que rien ne pouvait présager, eh bien de la même façon, il est écrit dans l'Écriture que le jour du jugement dernier, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Oui, chers amis, le jour de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même paraîtra dans toute sa majesté, et rien de ce qui s'opposait jusque-là à lui ne pourra subsister devant sa face. Absolument rien. Car de la même façon que nous voyons le feu dévorer toute chose sur le passage de cette terrible armée, de la même façon l'apôtre Pierre nous dit ceci dans sa deuxième épître. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et il avertit en disant, « Mais puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ?» Et là, il s'adresse aussi à nous. « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. » Chers amis, le jour du jugement dernier, ce grand jour de l'Éternel, préfiguré ici, dans ce chapitre 2, sera un jour où le mal, le péché, ses conséquences sur l'univers disparaîtront et où Dieu renouvellera toutes choses pour l'éternité. On parlera du renouvellement tout à l'heure. Mais ceci après un terrible jugement. Mais comme nous le lisons, encore au début de ce chapitre 2, ce jour de l'Éternel est proche. Et j'aimerais ajouter ceci. Et plus proche qu'on ne peut l'imaginer. Alors je ne vais pas faire le grand prophète en vous donnant la date du retour du Seigneur. Parce que beaucoup se sont exercés à ce genre de prophétie et beaucoup se sont trompés. Mais pourtant, ce jour de l'Éternel est proche, plus qu'on ne peut l'imaginer pour chacun de nous. Voilà ce qu'en disait il y a des siècles Saint Jérôme. Ce jour est proche, quoi qu'il nous paraisse si éloigné, puisque le jour de notre mort est le grand jour du Seigneur pour chacun de nous, et que par conséquent, le dernier jugement ne sera qu'une confirmation de ce premier. Ainsi, nous devrions vivre sur la terre comme si nous étions assurés que le monde ne dut pas plus durer que nous, puisqu'en effet, à notre dernière heure, tout périt avec nous, et que nous entrons alors infailliblement dans une éternité de bien ou de malheur. L'apôtre Pierre, toujours lui, nous dit encore ceci, toujours dans sa deuxième épître. Il nous dit que les incroyants nient volontairement cette réalité d'un grand jour de l'Éternel. Il écrit, « Ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre, qui du milieu de l'eau et formée par l'eau surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. » Alors, chers frères et sœurs, ou chers amis, je dirais plutôt chers amis, pas chers frères et sœurs, parce que vous n'êtes pas concernés par ce que je vais dire, sachez, si vous faites partie de ces incroyants qui nient cette réalité d'un grand jour de l'Éternel, sachez qu'il y a pour vous une urgence, une réelle urgence, à réfléchir à votre situation, car comme je l'ai lu de la part de Jérôme, chaque nouvelle journée ne fait que vous rapprocher davantage de ce jour de l'Éternel. Chaque nouvelle journée vous en rapproche davantage. Ce jour est proche. Et je dirais ceci, le Seigneur peut revenir aujourd'hui, et si le Seigneur revient aujourd'hui, eh bien ce sera la dernière étape de l'histoire du salut. Et je rajouterai encore que ce jour est proche aussi à cause de la précarité de nos vies, de votre vie. Car votre vie n'est qu'un souffle que Dieu vous maintient, mais qu'il peut vous retirer quand il le veut. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci, Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est-à-dire le jour de l'Éternel pour votre vie, où vous devrez comparaître devant lui. Alors je ne peux que vous inviter à une chose, c'est à écouter l'avertissement qui vous est lancé ce matin et à écouter l'appel de Dieu, car il y a un appel et nous y venons. Et cet appel, nous le trouvons donc au deuxième point, un retour à l'Éternel. Et ce sont les versets 12 à 17. Un retour à l'Éternel. Après ce terrible avertissement, après ce ciel noir et lourd qui arrive au-dessus de Juda, d'où la foudre de l'invasion va frapper, eh bien, nous remarquons dans ces versets que Joël, inspiré par Dieu, fait néanmoins percer un rayon de soleil. Il y a un message d'espoir au milieu de ce texte. Et c'est ainsi que dans les versets 12 et 13 de cette deuxième portion, Joël dit à ce peuple de Juda qu'il leur reste néanmoins encore un moyen d'éviter ce grand mot, en écrivant « maintenant encore ». On a l'impression, en lisant ces versets, d'entendre Dieu lui-même qui parle ainsi à son peuple. « Convertissez-vous à moi de tout votre cœur, non pas de la bouche et en apparence, non pas de la simple pensée ou par des résolutions imaginaires de ne plus m'offenser, qui n'ont aucune racine dans votre volonté, mais sérieusement et du fond du cœur. Ne déchirez pas seulement vos vêtements et ne pleurez pas simplement comme vous avez coutume de le faire lorsqu'il vous arrive quelque chose d'affligeant, mais déchirez vos cœurs. En rompant les chaînes de vos passions, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie qui vous lie si facilement. » Joël invite donc ce peuple à une réelle conversion à Dieu. Joël invite ce peuple à ce qu'il reçoive un cœur de chair, un cœur vivant et animé, un cœur pur et droit, au lieu de ce cœur dur et pécheur, au lieu de ce cœur sans vie, sans sentiment, impur et déréglé qui est le sien jusqu'à présent et qui l'a conduit à abandonner Dieu pour l'idolâtrie, à se moquer éperdument du temple et des sacrificateurs, à marcher en rebelle, à se moquer de ces sauterelles qui sont venues, qui ont détruit, qui ont enlevé toute richesse, toute joie dans ce pays. Pour reprendre une illustration de l'Écriture, Joël exhorte en fait ce peuple de Juda à crier à Dieu à la façon de David. Lorsqu'au psaume 51, il écrit ceci, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. » C'est le cri profond de David devant son péché, parce qu'il a commis l'adultère et un meurtre. Et remarquez que dans ce verset, dans cet appel à Dieu, dans ce cri à Dieu, le roi ne demande pas seulement qu'il lui donne un cœur pur, mais il lui demande qu'il crée ce cœur. Car de la même façon qu'un vase de terre étant cassé ne peut pas se réparer, mais doit être remplacé par un autre que l'on forme de nouveau, eh bien de la même façon, lorsque le cœur de l'homme a été comme brisé par le péché, il ne se convertit à Dieu que lorsque celui-ci crée un cœur nouveau en vertu de sa toute-puissance. Ce n'est que lorsque Dieu donne une vie nouvelle, crée un cœur nouveau, ce n'est qu'à partir de ce moment-là, à partir de cette œuvre de recréation, au plus profond d'une âme, que celle-ci peut commencer à aimer vraiment Dieu, à l'écouter, à lui obéir. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle peut concevoir envers lui une humble et ferme confiance. Parce qu'elle comprend que, par la même bonté dont il a fait preuve à son égard pour lui faire connaître l'abîme de son péché, eh bien par cette même bonté, il va tirer cette âme de son péché. Il va guérir ses plaies. Comment ? Par le mérite du sang de Christ et par l'action du Saint-Esprit. Ce qui permet à Joël de pouvoir présenter avec une si grande assurance ce message du salut possible aux habitants de Juda, c'est qu'il s'appuie sur le caractère même de Dieu, qui, comme nous le lisons au verset 13 et 14, fait grâce, est compatissant, est lent à la colère, est riche en bienveillance. Regardez tout ce qui nous est donné dans ces quelques versets, tous ces attributs de la bienveillance de Dieu. Que comprenons-nous ce matin ? Eh bien, nous comprenons, chers frères et sœurs, que Dieu est certes un Dieu qui juge. Que l'Éternel est un Dieu saint qui ne peut tolérer le péché et le pécheur. Il ne peut les tolérer un seul instant dans sa sainte présence. Mais nous comprenons aussi qu'il est un Dieu qui fait grâce. Qu'il est un Dieu compatissant. Qu'il est un Dieu prêt à ne pas répandre son jugement annoncé si son peuple ou son enfant revient à lui. Joël dit encore, et ça peut nous étonner, qu'il est un Dieu qui regrette. Nous ne devons pas plutôt comprendre cette expression dans le sens des hommes qui regrettent leurs mauvais choix, leurs mauvaises attitudes, mais plutôt dans le sens qu'il est prêt à revenir sur ce qu'il a annoncé à l'homme, si celui-ci change d'attitude à son égard. Alors souvenons-nous de cela, chers amis, ce matin. Dieu fait grâce. Et cette expression de son caractère rencontrée ici est particulièrement encourageante dans la mesure où nous nous rendons compte de notre péché. Car selon les versets 15 à 17, je ne parlerai pas trop longtemps de la repentance aujourd'hui, même si c'est un des thèmes centraux de ce texte, pour la simple et bonne raison que nous en avons parlé dans la prédication précédente, c'était l'idée centrale de cette dernière prédication sur Joël 1. Mais toutefois, selon ces versets 15 et 17, la condition nécessaire au pardon divin est la repentance. Et ici, nous voyons que la condition nécessaire, donc, à ce pardon, à cette grâce, à cette bienveillance, est la repentance de tout le peuple. Dieu leur dit, si vous voulez être sauvés de la colère à venir, alors repentez-vous. Et c'est ce que Dieu vous dit ce matin si vous n'êtes pas son enfant. Si vous voulez être sauvés de la colère à venir, alors repentez-vous. Convertissez-vous à Dieu de tout votre cœur. Et si vous êtes éloignés, chers frères et sœurs, alors c'est la même chose, repentez-vous. Pas de la bouche, pas en apparence, comme on a si facilement l'habitude de le faire dans le monde chrétien. Peut-être le monde chrétien occidental, peut-être le monde chrétien suisse. Non pas de la simple pensée, par des résolutions imaginaires que l'on prend le 1er janvier de ne plus offenser Dieu, mais qui n'ont aucune racine dans la volonté, mais sérieusement et du fond du cœur. Venez à Christ si vous êtes sans lui, et revenez si vous êtes loin de lui. C'est cet appel que lance Joël à ce peuple dans son entier. Remarquez que même les enfants à la mamelle, qui sont trop jeunes pour avoir contribué directement par leur offense à faire venir ce jugement par les sauterelles, même ceux-là sont appelés à venir se repentir. Et puis la lune de miel des jeunes mariés, dont il est question aussi dans ces versets, qui était l'exemple type d'excuse valable pour être exempt de certains rassemblements au temple, comme de certains autres devoirs civiques, eh bien, même ces jeunes mariés sont ici sommés, comme les nouveau-nés, de se rassembler avec le reste du peuple. Pourquoi ? Parce que la repentance du peuple, tout entier, passe avant la joie privée des jeunes époux. Et remarquez encore que les sacrificateurs eux-mêmes se doivent de se repentir. Où se tiennent-ils ? Ils se tiennent à l'entrée du temple. Ils se tiennent au bas du temple, comme n'osant pas s'approcher de l'autel. Et là, au bas du temple, l'Éternel, par Joël, leur intime l'ordre de se repentir en pleurs et de supplier Dieu ainsi, « Éternel, épargne ton peuple. » Pourquoi ? Parce que ces hommes aussi ont péché. Pourquoi ? Parce que ces hommes doivent être un exemple. De la même façon que les serviteurs de Dieu dans son Église doivent aussi apprendre à se repentir, car nous sommes aussi pécheurs. Qu'est-ce que nous comprenons ce matin ? Eh bien, nous comprenons que quand le jugement de Dieu s'abat sur une nation, comme c'est le cas certainement sur nos nations aujourd'hui. Alors c'est vrai, on n'a pas d'invasion de sauterelles. Mais force est de constater que ne serait-ce que par cette crise économique qui frappe, et bien d'autres encore, le jugement de Dieu s'abat. Lorsque le jugement de Dieu s'abat aussi sur une église, bien que tous ne soient peut-être pas forcément coupables de l'avoir amené ce jugement, eh bien tous sont néanmoins appelés à se repentir et à s'identifier avec le peuple ou peut-être avec l'assemblée en implorant le pardon de Dieu. Mais aujourd'hui, quelle difficulté que de s'identifier à son pays et à son église. Oh non, non, moi je reste indépendant. Je consomme, mais quand il s'agit de s'engager, ne comptez pas sur moi. J'ai un exemple très précis qui date de mon enfance. Et quand le culte est fini, on ne voit plus personne. Et cette identification, chers frères et sœurs, à ce peuple, cette identification des hommes comme Esdras ou Daniel le vécurent parce qu'ils surent confesser les péchés de leur nation. Daniel, par exemple, chapitre 9, verset 8. « Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. » Alors sachons nous identifier nous aussi à notre pays et à crier à lui. Oui, crions pour notre pays. Nous sommes invités en 1 Timothée à prier pour nos autorités, mais supplions-le de faire grâce. Vous savez, souvent je prie pour mon pays, la France. Je suis suisse, vous le savez, mais je suis d'abord français. De père, de mère, de cœur. Et combien souvent je prie pour mon pays en disant « Mais on ne mérite qu'un juste jugement de Dieu. » Et en même temps, « Mais Dieu fait grâce. » Bien, sachez le faire. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Peut-être le faites-vous. Certainement, beaucoup le font. Et sachons aussi nous identifier à notre assemblée et à implorer le pardon du Seigneur lorsque celle-ci s'éloigne, peut-être, dans l'apostasie. Ou nos pays dans l'apostasie. Même si peut-être la responsabilité de la chute de notre pays ou de notre Église ne nous incombe pas directement. Mais parce que nous sommes pécheurs, nous aussi, et parce que nous appartenons à ce pays, à cette Église, nous sommes solidaires de cette nation, de cette assemblée. Venons-en maintenant à la délivrance de l'Éternel, les versets 18 à 28. Après cet appel solennel à la repentance, Joël montre maintenant que l'Éternel saura faire grâce. Il saura faire grâce si le peuple de Juda sait s'humilier devant lui. Combien de fois l'Écriture nous montre, rappelez-vous quand nous avions étudié ensemble le livre de Néhémie, combien de fois l'Écriture nous montre que lorsque le peuple de Dieu revient à lui repentant, eh bien il trouve en lui quelqu'un qu'il aime, comme la prunelle de son œil, et ne veut pas le châtier plus qu'il n'est nécessaire. Bien au contraire, combien l'Écriture nous montre que quand son peuple se retourne ou se tourne vers lui à nouveau, il va jusqu'à répandre sa grâce sur lui, dès qu'il le voit revenir comme il l'exige. Et à titre d'illustration, souvenons-nous de cette belle parabole du fils prodigue que nous avons vue l'autre jour avec notre frère Espérance. Dans celle-ci, après un temps de rébellion, le fils revient à son père repentant, reconnaissant qu'il a péché contre le ciel et contre lui. Que fait le père? Il lui claque la porte au nez, « Fils indigne, tu n'es plus mon fils. » Non. Au lieu de le blâmer, au lieu de lui fermer la porte au nez, il le voit de loin, il le voit apparaître, déguenillé. Il est ému de compassion et il court à la rencontre de son fils. Il le prend dans ses bras et il l'embrasse. Et que fait-il ensuite? Il le revêt de son manteau. Il lui met des chaussures aux pieds, un anneau aux doigts. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il le réintègre entièrement dans la famille, dans le rang qui est le sien. Tu es mon fils. Tu as les mêmes privilèges qu'autrefois. Et puis il fait tuer le veau gras. Il invite toute la famille et les serviteurs à faire la fête. Pourquoi? Car ce fils qui était mort est vivant, car ce fils qui était perdu est revenu. De la même façon, Joël montre ce cœur de père face à ce peuple repentant, s'il se repent. Et je vous propose qu'on considère rapidement ces délivrances et ces grâces que nous découvrons ici de la part du Seigneur à l'égard de ce peuple, s'il se repent. Première grâce, la délivrance de l'armée ennemie, le verset 20. Si son peuple, je le répète, revient à lui, l'Éternel qui a prévu d'envoyer cette armée puissante pour détruire son peuple, pour le détruire, fera de telle sorte à ce que son avant-garde soit repoussée, détruite dans la mer Morte, et à ce que son arrière-garde soit repoussée, détruite dans la Méditerranée. Et Joël va jusqu'à ajouter au verset 20 que l'odeur terrible qui exhalera des cadavres de cette armée détruite par la puissance de Dieu sera proportionnelle à la grandeur de l'orgueil qui était celui de cette armée, aux prétentions orgueilleuses qui étaient les prétentions de cette armée. Elle était aussi orgueilleuse qu'elle sera puante lorsqu'elle sera détruite. Voilà ce que dit Dieu. Belle image, par avance, belle préfiguration de la destruction de l'Antéchrist, qui sera vaincu par Christ lors de son retour. Il est écrit dans la parole, « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. » Première grâce, donc, la délivrance de l'armée ennemie. Écoutez, regardez, soyez attentifs encore quelques instants. Deuxième grâce, tout renaît en Juda, ou tout renaîtra. Non seulement l'Éternel va détourner les châtiments imminents, mais il va réparer tous les désastres causés par le fléau précédent. Nous constatons, dans ces derniers versets de ce chapitre 2, qu'à la réconciliation du peuple envers son Dieu correspond le rétablissement du fonctionnement régulier de la nature. Tout se remet en place. Tout ce qui a souffert de l'invasion des sauterelles, rappelez-vous du chapitre 1, et qui devrait définitivement périr sous l'invasion de cette armée étrangère, reviendra miraculeusement à la vie si ce peuple se repent. Et c'est ainsi qu'on voit les animaux Rappelez-vous, encore une fois, qui soupiraient après l'eau, après la verdure, après les torrents, nous les voyons être rassurés au verset 20, en voyant les champs reverdir. C'est ainsi que les arbres fruitiers, les vignes et les figuiers, qui sont secs au moment où Joël parle à ce peuple et l'appelle à la repentance, eh bien donneront de nouveaux fruits. C'est ainsi que les pluies qui ont cessé à cause de la sécheresse vont tomber à nouveau sur le pays, verset 23. Les greniers, rappelez-vous, les cuves d'huile et le vin, tout ce qui avait été pillé par ce peuple parce qu'il n'y avait plus rien, nous lisons verset 24 que ces greniers, ces cuves, se rempliront de nouveau. Et grâce suprême, au verset 25, Dieu aime tellement son peuple qu'il ira même jusqu'à le dédommager pour les dégâts causés par la correction qu'il a dû subir à cause de la dureté de son cœur. C'est incroyable. Mais surtout, rappelez-vous, nous voyons que la joie qui avait disparu du territoire de Juda, la joie qui avait disparu des habitants du temple de l'Éternel, de tout ce territoire, cette joie reviendra enfin. Versets 21 et 23. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Remarquez, il n'y aura plus de crainte. Non seulement la joie, mais plus de crainte. Remarquez encore, il n'y aura plus de crainte, mais il n'y aura plus non plus de honte. Ni crainte, ni honte, mais la joie. Ce qui a disparu de longue date au moment de cette prophétie, si ce peuple se repent, reviendra la joie en Dieu. Parce que c'est de cela d'abord dont il s'agit, la joie en Dieu. Et ce qui est par trop présent à ce moment-là, la crainte et la honte aura définitivement disparu. Ce qui est magnifique dans cette prophétie, c'est de lire enfin que lorsque Juda reviendra, il reconnaîtra à nouveau, et c'est dans les derniers versets, que l'Éternel est son Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, qu'il a fait des miracles pour lui. Alors, là, je ne reprends pas ce que dit Joël, mais on peut tout à fait l'imaginer en ayant lu ces deux chapitres, alors, le temple qui était pourtant abandonné de longue date sera à nouveau occupé. Le temple sera à nouveau fréquenté, comme il n'aurait jamais dû cesser de l'être. Peut-être que si nos pays se repentent, peut-être que si nos contemporains reviennent, ceux qui auront abandonné l'Éternel, peut-être qu'à ce moment-là, nos églises reverdiront, revivront à nouveau. Peut-être que la honte et la crainte disparaîtront et que la joie qui a disparu reviendra. J'aimerais encore dire ceci. Ce merveilleux rétablissement, chers frères et sœurs, qui est possible si ce peuple revient en se repentant, nous montre par avance ce que sera pour nous le paradis, dans la présence même de notre Dieu. Un entier renouveau cosmique. L'abondance de toutes choses, mais avant tout, la joie dans la sainte présence de Dieu. Plus aucune crainte, ni aucune honte. Mais c'est vrai que je ne veux pas m'arrêter juste à regarder à ce que sera le paradis plus tard, parce que cette joie réelle en Dieu, cette disparition de la crainte et de la honte est accessible pour nous aujourd'hui. Il peut arriver que nous perdions la joie de notre salut, que l'on vive dans la crainte, peut-être parce qu'on s'est éloigné de Dieu, parce que l'amour du monde nous a saisis, peut-être parce que les nuages noirs des épreuves ont envahi notre ciel et ont obscurci la présence de Dieu, nous conduisant à douter de ses bienfaits et de sa fidélité. Pourtant, ce Père bienveillant qui nous est décrit ici, ainsi que dans cette parabole du Fils prodigue, est là, prêt à accueillir ses enfants, à faire grâce, à s'émouvoir de compassion. Mais pour cela, il faut savoir regarder à nouveau à lui, se repentir de son péché, peut-être de son endurcissement, fixer ses regards sur lui plutôt que sur les épreuves qui nous assaillent. Souvenez-vous de cette promesse. Si la joie de votre salut a peut-être disparu, chers frères et sœurs, lorsque l'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Est-ce que vous êtes vraiment joyeux de votre salut? malgré les circonstances terribles dans lesquelles nous vivons, parce que c'est un fait. Quand on écoute la radio, quand on regarde les nouvelles, on se dit ouf. Mais le seul moyen de rester paisible et joyeux, c'est de tourner nos regards vers lui, de faire confiance dans ce Dieu qui juge et dans ce Dieu qui est prêt à faire grâce. Je conclus. Quelle fresque, c'est la pensée qui m'est venue pour cette conclusion, quelle fresque que ce chapitre. Le prophète Joël, au milieu de ces deux tourments, est saisi par l'Esprit de Dieu pour faire voir à son peuple, de façon on ne peut plus réaliste, le bouleversement absolu et cosmique du jour de l'Éternel. Jour terrible de jugement absolu. Jour où la colère de Dieu va s'abattre sur son peuple. Jour qui préfigure le jugement dernier. Et puis au milieu de ces événements terribles, on dirait un tableau de David. Vous savez, celui qui peignait Napoléon, etc. C'était toujours des ciels sombres. Mais des fois, il y avait des éclairs de lumière. Et au milieu de ces événements terribles et déchaînés qu'il annonce, il fait poindre la lumière. Et il parle du Dieu qui est prêt à pardonner. Et qui appelle dans un dernier cri tout son peuple à la repentance, à déchirer son cœur, à revenir à lui. Et tout à coup, après cet appel solennel à revenir à Dieu, anticipant le retour de son peuple, le calme revient. L'ennemi est balayé par le souffle de Dieu. Et au tourment universel qui a touché toute la création, les plantes, les animaux, l'humanité, même les cieux, puisque les étoiles avaient pâli, tout ce bouleversement de la création fait place maintenant au renouveau de toutes choses. Dieu a accordé son pardon à son peuple repentant. Il lui a fait grâce, il le rétablit, il lui rend même tout ce qu'il avait perdu. Comme ce père de la parabole du fils prodigue. Quel merveilleux message de salut qui nous appelle tous à la repentance. Qui appelle ses enfants infidèles à la repentance, ou les peuples, ou les églises qui l'ont abandonné, peut-être à la repentance et à la foi en Jésus-Christ, tous ceux qui ne sont pas encore à lui, et à pouvoir se réjouir vraiment dans ce Dieu qui est prêt à faire grâce. Bien, réjouissons-nous ensemble de ce Dieu qui juge, qui appelle à la repentance et qui fait grâce et qui bénit et qui renouvelle celui qui se tourne vers lui. Éternel notre Dieu, arrivant à la fin de ce culte, nous te remettons le reste de cette journée, nous souvenant, Père, que le matin et l'après-midi, toute cette journée t'est consacrée. Te demandant, Père, que nous puissions nous réjouir en toi, Seigneur, et nous réjouir tout particulièrement de ce merveilleux salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Accorde-nous, nous t'en prions, Seigneur, cette joie. Accorde-nous de la retrouver si, Seigneur, elle a été perdue. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.